FM. Les grands débats, Nicolas Dose.
C'est l'une des informations économiques du jour. Bruxelles prévoit en 2009 la plus grave récession depuis 60 ans. Débat aujourd'hui sur la faillite des experts. Point d'interrogation. Pourquoi beaucoup n'ont rien vu venir? Les économistes sont-ils d'abord ceux qui nous expliquent avec beaucoup de talent pourquoi ce qu'ils avaient prévu ne s'est pas produit? La prévision économique n'est-elle qu'un art borgne? Comment fonctionnent donc les économistes? Comment fabrique-t-on les prévisions? Pourquoi si peu d'entre eux ont vu venir les excès qui ont conduit la finance et les marchés dans le mur? En septembre 2008, dans Capital, l'économiste Daniel Cohen, lié à la banque Lazare, affirme que la crise actuelle ne durera pas longtemps. Il place le creux du U à la fin du premier semestre 2009. En mars 2008, Antoine Brader, qui est directeur des études économiques chez Dexia Asset Management, affirme dans Challenge que les paniques bancaires à l'ancienne ont disparu. Tiens, je vous cite David Naudet, économiste senior à la Deutsche Bank en janvier 2008. Aux États-Unis, l'embellie arrivera certainement mi-2008. En Europe, la reprise prendra sans doute quelques mois de plus. En tout cas, il n'y aura pas de crack cette année, nous dit-il. Je suis à la page 328 et 329 du dictionnaire de l'économie à l'usage des non-économistes, sorti chez Grasset, dont l'auteur est avec moi, Jean-Marc Vittori. Bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste aux Échos. Au départ, ils présentent toujours leurs prévisions avec un aplomb que rien ne semble pouvoir perturber. Puis à l'arrivée, c'est souvent le désastre. Ils ont bien souvent tort, ils ont bien plus souvent tort que raison. Patrick Artus, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur de la recherche des études de Natixis. Vous allez publier « Le roast beef est cuit ». Ça ne s'invente pas, c'est chez Perrin dans un mois, c'est ça Patrick Artus?
Oui, à peu près, oui.
Voilà, c'est une perspective sur l'avenir de l'économie britannique?
Oui.
Bon, ben, je vous demanderai votre avis en fin de débat sur l'économie américaine, parce qu'on avait un débat précédemment où justement le leadership des États-Unis est-il menacé? Bon, avec nous également Valérie Charol, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, auteur de « Et si les chiffres ne disaient pas la vérité ?» point d'interrogation, publié chez Fayard. Alors, il y a cette étude, Patrick Artus, numéro 110 du 22 mars 2007, chez Natixis. « Les marchés financiers croient à n'importe quoi », écrit cette étude. « Ils croient que la liquidité va se raréfier, que l'économie chinoise va ralentir, qu'il pourrait y avoir une récession aux États-Unis, que la profitabilité va se retourner à la baisse, que la crise des subprimes aux États-Unis va déclencher une crise bancaire et financière. » Or, toutes ces affirmations sont fausses. Voilà. En mars 2007, Patrick Artus, cette étude Natixis dit ça, alors que vous listez trait pour trait exactement ce qui va se produire, mais pour arriver à la conclusion que justement ça ne se produira pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tout ce que vous dites est d'une pertinence incroyable, c'est exactement ce qu'on vit. Mais vous nous dites non, ça va pas arriver.
Parce que ça aurait pas dû arriver. Je crois que c'est ça la grande réflexion que doit avoir l'économiste aujourd'hui. La crise du subprime, c'est fini, hein, les subprimes, il n'y en a plus de crédit subprime. Hein. C'est-à-dire, soit ils ont fait défaut, soit ils ont été transformés en autre chose.
Les Américains sont à la rue. Voilà, c'est...
Mais il n'y a plus de subprime. Donc on sait, une fois que c'est fini, combien a coûté aux banques, à la finance globalement, la crise des subprimes. Ça a coûté à peu près 350 milliards de dollars.
D'accord.
Aujourd'hui, la perte en capital sur l'ensemble des actifs financiers, quand vous ajoutez les actions, les produits compliqués, les ABS, etc., c'est 30 000 milliards de dollars. Donc à partir de cette crise, on a fabriqué une crise qui est 90 fois à peu près plus grosse.
Oui, mais comment on peut dire des choses aussi justes en mars 2007, parce que c'est, ça relève de la prévision et de la vision économique et d'une espèce d'une intelligence de la science éco pour nous dire non, ça va pas se produire.
Mais ça aurait pas dû se produire. C'est vrai qu'à nouveau, c'est la même chose que sur les marchés. Je crois qu'en réalité, et c'est ça qui doit rendre très modestes les économistes, c'est qu'en réalité, il y a une difficulté. C'est qu'en mars 2007, le scénario de loin le plus probable était vraiment le scénario selon lequel ce qui se passe ne se produisait pas. Donc, c'était pas notre travail de dire attention, tout va s'effondrer. Ce qu'on fait certain, hein, je veux dire. Mais d'un autre côté, ceci veut dire, et on le voit encore aujourd'hui, hein, qu'une crise peut être totalement autoréalisatrice. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les individus croient que ça va se produire, cet événement de probabilité extrêmement petite peut se réaliser. Et par exemple,
c'est le facteur humain, du coup. Oui, c'est le facteur humain qui échappe forcément à n'importe quelle prévision et qui fait que.
Ouais, prenez un exemple aujourd'hui. Vous rencontrez énormément de présidents d'entreprises qui vous disent écoutez, moi, mon entreprise va pas mal. J'ai des carnets de commandes, je gagne bien ma vie, mais j'ai décidé d'arrêter tous mes investissements.
Parce que l'ambiance est tellement mauvaise, je ne sais pas où on va,
je suis très inquiet, principe de précaution. Les ménages vous disent, je vais pas mal, etc., mais j'ai décidé de pas acheter de maison, d'arrêter de changer de voiture, de plus aller en vacances. Donc quand vous avez généralisé le principe de précaution au comportement de tous les agents économiques, vous fabriquez évidemment une crise épouvantable, si plus personne n'achète de voiture ni n'investit, qui était totalement évitable et qui est simplement due à une espèce de psychologie collective de...
Donc à l'époque, en mars 2007, on peut éviter ce qui se produit.
Ce qui est vraiment monstrueusement frustrant.
Par contre, on va laisser faire le truc.
Ce qui est frustrant, c'est qu'en fait, tous les plans de soutien sont partis à l'envers. C'est-à-dire que, par exemple, dans les banques, on parle beaucoup des banques en ce moment, et ensuite j'arrête, dans les banques aujourd'hui, on s'aperçoit que la technique qui est utilisée depuis le début, qui consiste à recapitaliser les banques au fur et à mesure qu'elles font des pertes, c'est absolument dramatique. Hein, ça s'appelle le tonneau des Danaïdes. Si on avait empêché les Américains de faire faillite sur leur crédit, avec incroyablement peu d'argent, on aurait pu prendre son temps, gérer les choses sans brutalité. Donc on a quand même fait plein de bêtises, et en même temps, il y a eu cette espèce de principe de précaution généralisé.
Alors Valérie Charolles, Jean-Marc Vittori, comment ce qu'il veut. Est-ce que vous êtes convaincu donc par l'explication de Patrick Artus qui le dit, on pouvait éviter le truc, ça ne devait pas se produire en mars 2007. Voilà pourquoi j'écris ça à l'époque. Jean-Marc Vittori.
Moi, je ne serais pas aussi optimiste que Patrick. Ce qui me frappe, c'est à quel point on n'a pas compris ce qui se passait. Et vous savez, c'est la vieille blague, on dit que Dieu avait inventé les économistes pour que les météorologues aient l'air moins bêtes. La météo a beaucoup changé en 30 ans. Elle est devenue capable de prévoir de manière assez vraisemblable, enfin on
en
se trompe
les gros trucs
relativement
elle les voit
peu, elle voit les gros trucs, mais même sur une zone précise, les prévisions sont devenues relativement précises à 24-48 heures. Pourquoi ? Parce qu'on a mis des moyens de calcul absolument colossaux, hein, les plus gros ordinateurs au monde ont été inventés pour la météo, et on arrive à peu près à prévoir. Je crois que l'économie, c'est infiniment plus compliqué que la météo. Les facteurs, les forces en jeu, les interactions entre les bouts du monde, entre la finance et ce qui se passe dans l'industrie, sont infiniment plus compliqués que tout ce qu'on croyait, que tout ce qu'on pense savoir. Et donc, ce qui s'est passé à partir de mars de 2007, je pense que ça vient en partie du fait qu'il y a plein de mouvements qui se retrouvaient dans d'autres compartiments, que ça soit géographique, que ça soit sectoriel, et ça on ne l'a absolument pas vu parce que c'était caché.
Mais c'est une faute de pas l'avoir vu, ou alors on aurait dû et on l'a pas vu et c'est une bourde. Enfin voilà, est-ce qu'il y a une responsabilité ou est-ce que c'est comme ça? Alors je sais pas, peut-être qu'on va demander à Valérie Charolles, hein, de puis vous je sais pas comment vous voyez ce qu'on vient de dire depuis le début, parce que là effectivement on est en train de dire ce qu'on dit toujours. Je vais vous expliquer pourquoi ce que j'avais prévu ne s'est pas produit, ou pourquoi ce que je n'avais pas prévu s'est produit.
Mais quand les économistes disent c'est le facteur humain qui a fait qu'une crise s'est produite, moi je pense qu'ils ont raison. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi est-ce que l'économie ne tiendrait pas compte du fait que l'économie est faite de facteurs humains, et donc qu'il faut tenir compte de ce facteur humain dans les prévisions, et notamment présenter les prévisions dans des périodes incertaines où il y a des risques importants, de façon beaucoup moins directive que ce que l'on fait aujourd'hui.
Le facteur humain, il a pris des dimensions exponentielles l'an dernier, jusqu'au paroxysme du type qui nous fait démarrer l'année en perdant 5 milliards et d'un autre type qui nous fait perdre 50 milliards en fin 2008. Là, je veux dire, on est sur un domaine qu'on peut pas, même en mettant tous les ordinateurs de la planète et les pires équations, là, non ?
Oui, mais justement, c'est dire, on a une prévision de croissance qui est d'une croissance relativement positive, mais il faut savoir qu'il y a des risques importants et que donc ça pourrait décrocher. Je crois que si les économistes disaient plus souvent ça, ça éviterait aux gens de considérer que l'économie est une espèce de grand flot qui se matérialise sans que chacun d'entre nous en soit partie prenante. Ouais, parce que c'est chacun d'entre nous aussi qui faisons l'économie.
Jean-Marc Vittori, puis Patrick Artus, on marque une pause après.
Juste un petit mot, c'est exactement ce que fait la météo maintenant. Hein, c'est-à-dire, aux États-Unis, on ne présente pas comme ça en France, mais aux États-Unis, on dit il y a 70% de chances qu'il y ait du soleil ou que la température ne descende pas en dessous de tel niveau. C'est exactement ce que vous vous demandez.
Oui, Patrick Artus, allez-y. Moi, je me pose la question de savoir, voilà, je me dis, est-ce que ce débat qu'on fait aujourd'hui, il a un sens ou pas, à la limite, presque.
Toujours, d'abord, d'être après. Un, j'aimerais revenir sur le point d'avant. Le facteur humain, il ne tourne pas du tout de la même façon d'une crise ou dans l'autre. En 98, on a une crise terrible des émergents, des hedge funds aux États-Unis. Il se passe à peu près rien. C'est-à-dire, trois mois après, on n'en parle plus, parce qu'on a pris les bonnes réactions, parce que la politique économique allait dans le bon sens, que personne n'a paniqué. La crise du subprime, elle n'est pas plus grosse que ce qui s'est passé en 98, et ça déclenche.
Si on l'avait traité au niveau subprime,
elle est infiniment plus diffusée avec les techniques financières qu'il y a.
Pas tant que ça.
Si on l'avait traité, particulièrement au niveau subprime, on arrivait à l'endiguer.
Mais il y a des facteurs objectifs dans cette crise. Les Américains sont trop endettés. On parlera des États-Unis tout à l'heure. Ça, c'est vrai. Simplement, c'est pas parce que les Américains sont trop endettés qu'on devait fabriquer cette crise épouvantable. On aurait pu gérer ça dans le temps, le lycée. Et puis, deuxième point, mais il faut qu'on en revienne après, ça dépend de ce qu'on appelle... Qu'est-ce que c'est un économiste ? C'est-à-dire, un économiste, c'est pas un prévisionniste.
Et ben, c'est la question qu'on va poser.
Et je crois que si les économistes se réduisent à des prévisionnistes, effectivement, ils servent pas à grand-chose. Mais c'est pas ça qu'on attend d'un économiste.
Est-ce que c'est un mauvais procès de citer Daniel Cohen, Antoine Brinder, comme je l'ai fait en début d'émission, David Naudet, qui nous disent des choses sûrement de bonne foi à ces époques-là, et on est aux antipodes de ce qu'ils
disent. Je pense que on extrait toujours évidemment des choses. Je pense que toutes ces personnes qui sont des gens brillants ne considèrent pas que leur boulot consiste à prévoir l'avenir. Je pense qu'ils considèrent que leur boulot, ça consiste à déchiffrer des mécanismes complexes.
Sûr que l'opinion l'entende comme ça.
Oui, mais c'est
quand on leur dit il y aura pas de récession et Bruxelles nous dit on va être à -1,8, bon.
Oui, mais vous voyez, les économistes, c'est pas des ordinateurs. Et la comparaison que la météo, Jean-Marc, est très très mauvaise. Le problème de la météo, c'est que ce sont des équations différentielles non linéaires. Ce qu'on sait pas gérer, c'est la non linéarité. Mais il n'y a pas de facteur humain dans la météo.
Il y a un bon résumé. On marque une pause, Patrick Artus, et puis Jean-Marc Vittori réagira. Il y a un bon résumé dans le dictionnaire de l'économie à l'usage des non-économistes chez Grasset, donc par Jean-Marc Vittori. Il y a effectivement la définition d'économiste. On va y venir juste après. Et puis la définition de prévision. Et sous chaque mot dans le livre de Jean-Marc, il y a en italique une formule courte. Et il écrit exercice à la fois impossible et nécessaire. Voilà, à tout de suite.